les enfants de Chronos.
Ernest Corby a Nanteuil et le Valois au cœur, c'est certain. Mais il n'en oublie pas pour autant Senlis. En 1912, il rédige une histoire de l'abbaye royale de Saint-Vincent par les archives. Ce travail ne sera lui non plus pas réellement rendu public, malgré la qualité des fonds étudiés. L'année suivante, son intervention auprès d'une bibliothèque permet l'acquisition de volumes des tables du chanoine Aforti par la bibliothèque de Senlis, en l'échange de deux ouvrages à laquelle la ville attache moins d'intérêt qu'à ses pièces manquantes. Le maire, Eugène Audan, écrit aussitôt Ernest Corby pour lui exprimer sa gratitude et celle de la municipalité. À la même époque, l'infatigable Corby découvre dans les greniers du greffe du tribunal de Senlis des monceaux informes de registres et de documents qui ne sont autres que les archives des anciens bailliages de Senlis et de Crépy. Le désordre étant tel dans ces précieuses archives, jusqu'alors introuvables, que le septuagénaire entreprend de les trier et les classer. Mais la besogne s'avère trop importante. Il prend contact avec l'archiviste de l'Oise, M. Roussel, pour lui soumettre la découverte. Séduit par le caractère très intéressant des 7 registres que l'érudit senlisien fait porter à Beauvais, décision est prise d'organiser le transfert complet des 158 registres à conserver. Parmi les documents envoyés à titre d'exemple, figure notamment un très beau plan en couleur de 1715 dressé par un dénommé charpentier. Celui-ci représente Nanteuil. On y voit le bourg, le prieuré, mais surtout le château, le parc et les jardins du seigneur de Nanteuil, le maréchal Victor-Marie d'Estrées. Le transport du précieux fonds est prévu le 30 juillet 1914. Finalement, l'opération doit être ajournée. Il manque 200 francs pour la financer. Devenu Corby l'antiquaire, terme déjà vieilli pour l'époque signifiant l'archéologue, sa correspondance fournie témoigne de son intense activité dans le domaine. Si les premières découvertes remontent à la nécropole mérovingienne du Plessis-aux-Bois en 1900, en forêt de Ray, celle-ci s'enchaîne avec quelques monnaies romaines, trouvées à Marcilly en Seine-et-Marne en 1901. C'est surtout à partir de 1905 qu'Ernest Corby parcourt le Valois pour répondre aux multiples sollicitations. À compter de cette année où il est désigné par l'emblématique président du comité archéologique Ernest Dupuis pour examiner, dit-on, les cercueils de pierre découverts à Baron chez le comte de Kersin. Corby l'antiquaire multiplie les trouvailles. Il exhume une céramique d'époque romaine portant des inscriptions chrétiennes à scie le long. L'année 1907 est marquée par 3 chantiers d'importance. Le premier est celui du Mont César près de Bailleul-sur-Thérain, pour lequel l'abbé Amar fait appel à son expertise. Quelques semaines plus tard, un autre prêtre archéologue, l'abbé Schwab, le contacte. À Palais, en Seine-et-Marne, des sarcophages viennent d'être fortuitement mis à jour par un cultivateur. Celui-ci, après avoir brisé les couvercles à la recherche d'un hypothétique trésor, abandonne sa découverte aux bons soins de l'abbé. Des cercueils de pierre s'avèrent être les premiers indices d'une nécropole mérovingienne. 2 semaines après avoir été sollicité par l'abbé Schwab, Ernest Corby reçoit un nouveau courrier palpitant. Celui-ci est signé d'Ernest Babelon. Le grand-père de l'historien Jean-Pierre Babelon n'est autre alors que le directeur du cabinet des médailles et l'un des fondateurs de la Société française des fouilles archéologiques. L'objet de la lettre est d'informer personnellement Ernest Corby que la reprise des fouilles sur le plateau de Champlieu venait d'être confiée à la Société historique de Compiègne, dont Corby devient également membre en 1907. Tout en étant désigné d'ailleurs par le comité senlisien pour suivre les travaux. Un rapport sur les murs découverts lors de cette campagne est envoyé à Ernest Babelon pour le bulletin de la Société française des fouilles archéologiques, mais nulle trace de ces travaux ne semble y avoir figuré. Ces rapports, entre érudits locaux, qualifiés parfois dédaigneusement d'amateurs, et les savants, figures reconnues de l'histoire et de l'archéologie, témoignent d'un aspect peu connu de cette époque. À compter de la fin du XIXe siècle, qui a vu l'explosion de l'intérêt pour l'archéologie dans les sociétés savantes, des contacts réguliers, voire même des liens assez forts à titre individuel ou institutionnel, unissent érudits locaux et spécialistes largement reconnus. La correspondance Corby-Babelon au sujet de Champlieu en est un parfait témoignage. Brigitte Vacher, de l'Université du Maine, en présente ainsi les bénéfices réciproques. D'une part, la prise en compte par les savants des découvertes locales et la contribution de celles-ci à des avancées notables sur le plan scientifique, et d'autre part, l'apport d'une lecture scientifique permettant de tempérer les interprétations parfois fantaisistes, nourries en particulier par l'enthousiasme de l'atmosphère romantique de l'époque. Se succéderont ensuite les fouilles dans le donjon de Béthisy en 1909, des prospections sur plusieurs parcelles à Bonneuil-en-Valois, dont l'intérêt archéologique est régulièrement souligné par un notaire de Crépy en 1910. La mise au jour de 17 sarcophages, dont certains contenant encore des squelettes de tous âges, à Bazoches, en Duvie, près de Crépy. Ça, ce sera pour 1912. Mais la guerre interrompt les travaux archéologiques. Ceux-ci reprennent au lendemain du conflit, avec de nouvelles fouilles entreprises à Chanlieu. Avec le soutien des monuments historiques qui subventionnent désormais le chantier, et avec le concours d'Ernest et de Jean Bablon, Ernest Corby dirige ses ouvriers près de l'église et de la nécropole mérovingienne. Il retrouve les traces des fouilles précédentes et note le peu de respect marqué par les fouilleurs de Viollet-le-Duc envers les corps disposés dans l'église. Il faut dire que les temps ont changé. Parfaite illustration des pratiques de son temps, il critique ses prédécesseurs. Ça, pour le coup, ça n'a pas beaucoup changé. Mais il n'hésite pas à amputer lui-même des sépultures. Ainsi, avant les hostilités en 1907, alors qu'il accompagne sur le terrain son ami Mâcon, préparant un travail sur les fiefs de Chaversy, près de Turmilly, il n'hésite pas à prélever lui-même une mandibule et un des fémurs appartenant au squelette d'un seigneur du XIVe siècle. Il lui paraissait particulièrement grand et voulait les soumettre à des spécialistes de sa connaissance. Des actes techniques comme celui-là choquent la morale, et Gustave Mâcon, pourtant fidèle de notre antiquaire, ne manque pas de souligner que la sépulture étant ensuite refermée à jamais, les membres ôtés aux défunts lui feront défaut à l'heure de la résurrection. Les protocoles d'études ont cependant changé, fort heureusement. À l'image du castor, Ernest Corby et ses contemporains ont bâti l'histoire, mais également beaucoup dénaturé, sinon détruit, les fonds d'archives, mais aussi les sites archéologiques qu'ils ont étudiés. À l'image des actes originaux que l'on retrouve dans leurs archives, le mobilier archéologique a souvent purement et simplement disparu, collectionneurs et musées personnels étant ainsi récompensés du soutien apporté aux érudits. À la même époque, en forêt de Compiègne, près de Saint-Sauveur, il met à jour un vicus de potier, c'est-à-dire un village avec des fours, des maisons, avec des caves, et un dépôt monétaire d'époque romaine. Les travaux archéologiques d'Ernest Corby n'ont pas été publiés, car celui-ci n'en est pas venu à bout. Il laisse à ce sujet une soixantaine de lettres et deux brouillons de rapports de fouilles. 21 communications ont été faites lors des réunions au comité archéologique, mais l'œuvre colossale qu'il a abattue, en suivant les multiples fouilles, en écumant les bibliothèques et les fonds d'archives, ou en accumulant des documents privés, n'a pas trouvé d'issue sous la forme d'une publication globale. En 1922, son dernier apport à la nouvellement nommée Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis est cependant symbolique. Il parraine l'entrée d'un nouveau membre, le père de Louis Carolus Barré. Ernest Corby s'éteint le 3 septembre 1924 à l'âge de 82 ans, alors qu'il est doyen de la société et le dernier des membres fondateurs encore vivants. L'importance de la correspondance de condoléances adressée à son fils témoigne de la reconnaissance de ses contemporains qui voyaient en lui un véritable puits de science, doublé d'un homme à la personnalité et à la générosité exceptionnelle. En effet, si ses traits de caractère sont si souvent soulignés, ce n'est pas uniquement en raison de ses compétences multiples sur le plan intellectuel, mais plutôt en raison de l'attitude et du courage dont Ernest Constant Corby a fait preuve durant la guerre. 10 ans jour pour jour avant sa mort, l'invasion allemande propulse le vieil homme dans un rôle complètement nouveau et inattendu. Bien entendu, Ernest Corby n'est pas mobilisable, du haut de ses 72 ans, lorsque le 1er août 1914 sont placardées les affiches appelant les hommes à rejoindre les centres mobilisateurs. Mais malgré tout, il joue un rôle important, localement en tout cas, durant le conflit et notamment pendant l'invasion, faisant plus qu'honorer son statut de notable. L'hôpital de Nanteuil est militarisé dès le 2 août 1914. Ernest Corby, assumant pleinement son rôle d'administrateur, se rend à Beauvais pour obtenir quelques informations auprès du préfet, mais en vain. Il n'obtient aucun moyen supplémentaire. Nanteuil ne risque rien, la guerre sera courte et victorieuse. Ce sont des généreux donateurs qui permettent à l'hôpital de recevoir des fournitures, notamment de la literie, pour faire face à l'afflux éventuel de blessés. L'invasion allemande, en passant par la Belgique au mépris de sa neutralité, a provoqué une grande désorganisation dans la réaction française. Et ce qui paraissait inconcevable quelques jours plus tôt est désormais une réalité. La bataille des frontières est un désastre et le général Joffre ordonne un repli stratégique. Le 30 août, moins d'un mois après la mobilisation, les Allemands entrent dans l'Oise. Averti de l'arrivée imminente des Allemands, Ernest Corby se rend à Senlis pour obtenir de nouvelles informations sur la conduite à tenir auprès de la sous-préfecture. Là, il rencontre la panique des Senlisiens, ayant appris de la bouche même du maire, Audan, l'arrivée imminente des Uhlans. Pris par le flot des habitants qui quittent la région, il croise bon nombre de personnalités sur le départ. Et lui, qui aurait pu bénéficier d'une place à leur côté pour aller se mettre à l'abri, décide de rentrer à Nanteuil par le train et d'affronter la situation avec courage et honneur.
Thank you.